Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Fares Haider, donc enseignant-chercheur en sciences de gestion. Donc, je suis rattaché à un laboratoire de recherche qui dépend de mon employeur principal, l'Institut supérieur de gestion, l'ISG, qui s'appelle l'ISERAM. Et mes spécialités en recherche, mais aussi en enseignement, c'est tout ce qui est stratégie d'entreprise, entrepreneuriat et management, dans son sens le plus large. Voilà. J'allais dire oui, j'allais commencer autrement, mais puisqu'on a cette photo finalement qu'un ami m'a passée il y a de ça quelques années de l'avenue principale de Tunisie, puisque Guy a précisé que j'étais tunisienne de naissance et d'origine, c'est sans doute la chose qui m'a amené à travailler sur la thématique qui va être abordée là, qui va être abordée sur deux séances, aujourd'hui et dans quelques semaines, la coopération. Là, on est sur l'avenue Habib Bourguiba, en Tunisie. Alors, je ne peux pas ne pas en parler, parce que moi, je ne saurais pas, peut-être Guy m'en tiendrait rigueur, mais je ne sais pas faire la part des choses entre le monde de la recherche d'un côté, l'enseignement de l'autre, et les spécialités qui sont les miennes, surtout la coopération, les alliances stratégiques entre entreprises, mais entre organisations en général. Et puis, une partie qui reste toujours très présente en moi, la politique. J'ai été député tunisien pendant quelques années. Je représentais mes compatriotes à l'étranger auprès du Parlement tunisien. Et donc forcément, il y a cette part qui s'exprime toujours. La politique, nous y reviendrons surtout la prochaine fois. Parce que j'ai bougé, mon cher Guy, énormément l'intervention qui avait été prévue depuis juin 2018. Entre mai et juin, on a finalisé en juillet. Parce que les mouvements actuels que vit la France, je ne peux pas rester insensible. Et parce qu'ils appellent à une autre forme, non pas de coopération inter-entreprise ou inter-organisation, mais peut-être entre plusieurs types d'organisations. Et c'est pour ça que j'ai chamboulé un petit peu l'ordre des présentations. J'ai dit la coopération, ça me tenait à cœur parce que dans mon action politique, mais dans ma conscience politique, qui reste celle du chercheur aussi, le chercheur est engagé et il prend aussi des risques. Ce n'est pas quelqu'un de neutre, ce n'est pas un cartésien pur, c'est quelqu'un qui fait des essais-erreurs et qui sait gérer le risque, surtout quand on est en spécialité managériale. J'ai toujours travaillé sur la coopération méditerranéenne. J'avais lancé deux associations, un collectif Jeunes du Monde pour la paix et le développement à l'époque, et la compétence aînée d'Idan ou d'Idan aîné, ça dépend du sens qu'on veut lui donner. Aîné, le fondateur de... Enfin, l'aïeux, j'allais dire, de Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. Didan était la reine de Carthage, une phénicienne qui a fondé l'empire carthaginois. Voilà une histoire dans l'Énéide, dans la mythologie, qui a été décrite comme étant une histoire d'amour, qui a enfanté depuis Carthage en Tunisie, mon pays natal, Rome d'une certaine manière, et qui s'est retournée un petit peu contre elle, puisque à un moment donné, on a eu les guerres puniques, et puis des guerres qui ont détruit l'une de ces deux puissances, à savoir celle du Sud. Sinon, l'histoire aurait été différente peut-être, et la géopolitique aussi. Mais enfin, et je me suis toujours interrogé de la manière suivante, en disant, pourquoi finalement, coopération, collaboration, entraide, solidarité, souvent sont couplées à leurs opposés. Voilà, il y a une forme paradoxale dans le comportement humain en général. Et donc, ça rejaillit sur les organisations, sur les entreprises, sur toutes les institutions où l'humain est représenté. Il n'y a qu'un pas à faire entre l'amour et la haine, comme on dit, entre la coopération et puis le pouvoir de domination d'un partenaire sur l'autre. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à m'intéresser dans le domaine de la recherche à un syndrome, moi je l'appelle le syndrome coopératif. Un syndrome coopératif, alors j'ai essayé, au début c'était prévu effectivement, qu'on fasse une séance sur le premier thème, que les deux premières lignes là en haut, le syndrome coopératif, une investigation historique et une lecture anthropo-économique, pour essayer de comprendre un petit peu d'où vient le syndrome coopératif chez l'humain en général, et après dans les entreprises, entre les sociétés, entre les organisations, etc. Et puis le deuxième thème que je voulais aborder plus tard, c'était entre dynamique coopérative des firmes, des entreprises, et la tendance libérée du travail, c'est-à-dire aujourd'hui, on avance vers une organisation du travail et des sociétés qui réclame la liberté, un alignement, une horizontalité. J'allais dire alignement par le bas, le terme n'est pas très heureux, sauf que, effectivement, un alignement par le bas de la hiérarchie, peut-être, dans une pyramide hiérarchique, que les salariés prennent un petit peu le pouvoir dans le cadre d'organisations qu'on dit être libérées. On parle de sociocratie, d'entreprises non seulement libérées, mais participatives de plus en plus. Et on le voit par les mouvements sociaux, par une certaine évolution de la conception de la relation hiérarchique, par la répartition du pouvoir dans une pyramide hiérarchique classique. Il y a une forme d'horizontalité qui s'opère petit à petit. Alors, j'ai décidé, et j'espère, je disais que vous m'en tiendrez par rigueur, d'inverser. Parce que les événements qui se sont produits en France depuis 20 semaines maintenant, 21 semaines, font que je dois retravailler encore cette partie pour essayer de la compléter un petit peu ou la faire coller un peu au contexte dans lequel on évolue. Et certainement, y a-t-il des choses à comprendre là-dedans ou à lier à ma conception de la collaboration et des relations inter-entreprises ou intra-organisationnelles. Donc je commencerai aujourd'hui par le syndrome coopératif, mais vu à travers la collaboration dans l'entreprise. Mon premier but de recherche, c'était d'étudier le rôle de ce que j'appelle moi une capacité partenariale, la capacité de tout un chacun ou de toute organisation à collaborer, à être partenaire d'une autre, dans la réduction des risques de ces collaborations-là. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a deux entités qui collaborent, obligatoirement, il y en a une qui risque de prendre le dessus sur l'autre, où cette collaboration est vouée systématiquement à l'échec. Dès que l'une bouge un peu trop, j'allais dire en langage simple, par rapport à l'autre, ou commence à prendre des alternatives qui ne conviennent pas à l'autre, ou une idée qui lui passerait par la tête de pouvoir dominer son partenaire. Je l'ai remarqué du fait d'un constat que j'avais fait dans le monde réel de l'entreprise, mais ça va aussi dans la société. C'est qu'on a, depuis quelques 30 ans maintenant, 35 ans, une croissance constante des partenariats. Quel que soit le niveau ou la sphère d'analyse dans laquelle on va s'établir, qu'on va étudier, on va remarquer qu'il va y avoir un rapprochement des entités. Quel que soit le système étudié, qu'il soit social, et on a eu émergence de l'économie solidaire, de l'économie circulaire, etc. Que ça soit entrepreneurial, entre entreprises, ce qu'on appelle les alliances stratégiques. Que ça soit de la coopération, à l'échelle notamment internationale. À chaque fois, les entités ont besoin de collaborer. Alors, première question, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que on est passé dans les années 70-80 d'une époque où une entreprise ne savait pas vraiment coopérer avec une autre sans avoir en arrière-plan l'idée de dire pourquoi pas l'absorber. Les fusions-acquisitions avaient fait florès dans la première moitié du XXe siècle, mais surtout aussi juste après les 30 Glorieuses, quand on a entamé, pardon pour le terme, mais c'est celui qu'on a adopté même académiquement aujourd'hui, les 30 Piteuses. On les appelle même académiquement, on ose maintenant les appeler comme ça. Voilà, c'est rentré dans le jargon des chercheurs. Donc je m'y suis fait depuis un an, j'ai dit bon allez, je vais prendre aussi cette expression parce qu'effectivement elle frappe. On est passé par 30 années de construction, de croissance, etc. à une période beaucoup plus dure depuis les années 70. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Jusque dans les années 70, on était dans une économie qu'on disait être tirée par la demande. C'est-à-dire que les gens consommaient. Ils consommaient pour différentes raisons. D'abord parce qu'ils avaient un pouvoir d'achat par rapport à leurs besoins qui était un peu plus satisfaisant qu'aujourd'hui. J'allais dire, je ne veux pas parler de l'actualité, mais enfin, ça y ressemble beaucoup. Et en même temps, on avait une période qui n'était pas glorieuse de son seul fait, parce qu'il y avait des évolutions technologiques ou autres, mais parce que c'était une période qui succédait à un marasme sur le plan militaire, un marasme social, qui était celui des deux guerres. Malheureusement, je suis obligé de le constater, et là certainement qu'il y a quand même une petite subjectivité d'un ancien politique en moi, c'est que les guerres, elles servent. Et elles servent à un moment donné à tout raser pour donner la possibilité de tout reconstruire. Je suis désolé de le constater, mais enfin, les économistes l'ont fait avant moi, c'est pas ma spécialité. À chaque fois qu'on a une guerre, on a une croissance économique quelque part juste après. Alors peut-être pas sur le territoire lui-même ou le terrain lui-même de cette bataille, mais parmi les forces qui peuvent l'entourer. Et on a eu 30 glorieuses qui étaient surtout celles de la reconstruction, qui ont touché surtout l'Europe, on le sait, qui ont rejailli en bien aussi et très positivement sur les États-Unis, qui avaient contribué économiquement et militairement aussi, et qui étaient le pourvoyeur de fonds, voire l'institution qui alimentait ne serait-ce que militairement l'Europe dans sa crise. Donc obligatoirement, il y avait obligatoirement un effort de reconstruction. Et comme on dit, à chaque fois qu'un secteur économique qui s'appelle le bâtiment marche très très bien, ne serait-ce que cette partie-là de l'économie, ben le reste suit. Et ça va obligatoirement perler un peu sur les autres secteurs. Et puis, arrivé dans les années 70, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan de la production, par exemple? Sans doute, parmi nous, ici dans la salle, il y a des gens qui ont eu eux-mêmes ou leurs parents des machines à laver de type Miel, par exemple, des machines à coudre de type, ça dépend des prononciations, Singer ou Singer. C'est des produits, pardon, mais qui sont increvables. C'est-à-dire qu'ils avaient une capacité de fonctionnement et une justesse et une robustesse qui les rendaient capables de perdurer dans le temps. Ça ne fonctionne pas, l'entreprise, elle ne l'aime pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que tant que les gens achètent, ça va très bien. Mais à un moment donné, vous avez une saturation des marchés. Et lorsqu'il y a une saturation des marchés, qu'est-ce qui va se produire? Obligatoirement, on va avoir un manque de la demande. Quand la demande baisse, les rentrées d'argent des entreprises baissent. Et là, les entreprises et le secteur économique, ou en tout cas l'économie en général, a constaté que son paradigme, sa théorie, son système qu'elle avait adopté jusque-là n'était plus le bon. Quel est ce système ou quel était ce système? Le taylorisme ou le fordisme, ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, qui était orientée sur le productivisme ou la productivité. C'est-à-dire la seule préoccupation des entreprises ou de l'économie en général à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, c'était on a les capacités technologiques, on a évolué technologiquement énormément avec les révolutions technologiques, et puis on a la capacité de bien produire. Le consommateur est là, il consomme. Alors à un moment donné, soit par l'extension territoriale de certaines puissances qui ramenaient de nouveaux marchés, soit j'ai dit par les efforts de reconstruction d'après-guerre à chaque fois, et les guerres entre le 19e et le 20e, il y en a eu quelques-unes. Donc elles ne se préoccupaient pas des débouchés commerciaux de leur production. Leur volume était obligatoirement écoulé très très rapidement. Sauf qu'à partir des années 70, il y a eu ce phénomène des produits, à un moment donné, tout le monde voulait de l'électroménager, tout le monde voulait certains produits de grande consommation. Une fois qu'on les a et qu'ils marchent, on n'en veut plus, ou on n'en a plus besoin, ou on n'a pas besoin de les échanger ou de les renouveler. Et d'un autre côté, on a une crise pétrolière, financière et économique générale qui s'installe à partir des années 70, et je ne la prends en personne ici, et donc changement de paradigme. On est passé à une société qu'on dit être celle de l'économie tirée par l'offre. Elle était tirée par la demande d'avant, elle est désormais tirée par l'offre. Ça veut dire quoi, tirée par l'offre? C'est-à-dire que si l'entreprise ne montre pas patte blanche, si l'entreprise ne va pas chercher le consommateur, celui-ci ne vient pas forcément de manière spontanée. Et vous le remarquez, nous le remarquons tous, je le dis souvent aux étudiants, moi ça me dérange le terme de société de consommation qu'on nous applique. À chaque fois, à la télé, on nous parle de société de consommation. Alors j'interroge les étudiants qui me le disent et qui sont contents de le répéter. Si nous étions une société de consommation, pourquoi est-ce qu'on nous bassinerait tous les jours dans les informations, à la télé, j'allais dire avant la crise des gilets jaunes, parce que pour l'instant, on parle surtout de ça. Mais on nous a toujours dit, il y a un problème, l'agrégat économique de la consommation n'est pas bon. Ah, donc il y a crise à chaque fois, il y a un système qui ne marche plus économiquement, parce qu'il n'y a pas de consommation. Mais avec ça, on nous dit être une société de consommation, c'est vrai. Nous sommes une société de consommation, mais pas celle d'avant les années 70, nous sommes une société de consommation induite. C'est-à-dire, nous ne consommons pas spontanément, nous consommons de manière peut-être irréfléchie, inconsciente, mais de manière qui a été enseignée, qui nous a été inculquée. Comment? Par la communication, par le marketing et donc la publicité. Et d'ailleurs, si on constate, moi je suis gestionnaire et donc je suis en stratégie, la stratégie est très proche du marketing. La stratégie s'occupe des orientations, du positionnement d'une entreprise dans son environnement ou d'une organisation quelconque. Le marketing s'occupe presque de la même chose, mais au sens de l'image. La communication, c'est l'outil du marketing qui va permettre d'impacter les consciences pour pouvoir amener les gens vers l'acte d'achat. Donc on est très proche, on parle de stratégie dans tout ça. Donc je réfléchis, le marketing, la communication et la stratégie, qui est ma spécialité, ne sont devenues vraiment très importantes économiquement qu'à partir des années 70. C'est-à-dire avant les années 70, on ne parlait pas tant que ça de marketing et de pub. Il y avait quelques publicités, mais pas plus, quelques affiches, mais pas plus que ça. Alors que là, vous voyez la durée des pubs à la télé. Donc obligatoirement, on est passé à autre chose. Et pourquoi? Comme par hasard, c'est à partir du moment où la production n'était plus la priorité parce qu'on n'arrivait plus à écouler les stocks. Notre problème, c'est de vendre, c'est pas de produire. On sait produire. Donc on a changé de société. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les budgets de production et de marketing et de com doivent être observés dans les entreprises. Parce que ceux du marketing et de la communication évoluent de plus en plus, en règle générale, ça dépend des secteurs. Et la production, on a tendance à essayer de résorber les coûts, ou en tout cas de les optimiser. Alors que Marketcom, on s'y donne à cœur joie, ou avec cœur joie. C'est ça le point de départ de ma réflexion, en disant « le contexte économique dans lequel nous sommes est un contexte très très dur pour les entreprises, parce qu'elles ont le problématique d'abord de l'écoulement des stocks. » Deuxième problème, c'est que forcément le nombre d'entreprises a augmenté comme pas possible. Et là, je le lis aussi à une démarche que nous avons adoptée, et j'allais dire le monde entier aussi. Nous voulons la concurrence pure et parfaite, si possible, en nous disant, et il y a du vrai là-dedans, que ça va au bénéfice du consommateur. Sauf que la concurrence pure et parfaite exige deux choses. Concomitamment, l'atomisation de la consommation, de la demande, et l'atomisation du système productif des entreprises. Donc il faut qu'on ait énormément d'intervenants sur les marchés, côté offre, et qu'on ait beaucoup de demandes côté population, pour que ça coïncide, que ça corresponde et que ça s'équilibre. Et oui, mais quand vous le faites à des entreprises, qu'elles se retrouvent des sociétés, moi j'ai travaillé sur des sociétés informatiques, des start-up par exemple, qui ne sont pas très très éloignées d'ailleurs, physiquement ou géographiquement. Dans les années 70, les informaticiens, vous direz, on était 3, 4 entreprises dans un secteur donné. À Toulouse par exemple. Aujourd'hui, ça se chiffre à quelques centaines. Voilà, chacune dans son domaine, chacune dans son secteur, chacune avec sa spécialité. Enfin, la concurrence, elle est terrible. Et à partir du moment où la concurrence devient terrible, eh bien, il y a un deuxième phénomène qui s'opère. C'est qu'on va avoir une accentuation très très importante de la compétition. Et les règles de la compétition, c'est celles qui expliquent l'importance du marketing, de la stratégie. Tout le jargon que nous utilisons en marketing ou en stratégie d'entreprise, c'est un jargon qui vient du monde militaire, qui a été inventé, et moi je suis très heureux de ça, le seul point qui m'intéresse là-dedans, ou qui me motive, c'est qu'effectivement ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Hannibal. Alors c'est pas Hannibal Lecter, voilà, le film, c'est Hannibal Barca. Est-ce que ça vous dit quelque chose, messieurs, dames? Oui, monsieur?
J'en ai entendu parler à l'école.
Alors attention, c'est l'un de mes aïeux. C'est ce monsieur qui a traversé les Alpes à dos d'éléphant. Voilà. Un phénicien pur, un carthaginois. Moi, je suis, c'est vrai, de Tunis, mais je suis de la ville de Carthage, de naissance. Donc forcément, ça m'a touché, et je n'ai pas choisi la stratégie comme ça, c'est pas pour ça, mais je suis heureux de le dire à chaque fois, effectivement, que ce général militaire carthaginois avait inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie. D'ailleurs, il est enseigné dans les écoles militaires comme étant le père de la stratégie dans le monde. Parce que la stratégie, ça se pratique à la base dans le terrain militaire. Et d'ailleurs, je vous conseille tous, pour votre plaisir peut-être, de voir un film sur Internet, il est disponible, qui s'appelle Hannibal, le premier ennemi de Rome. Et il y a une version Hannibal, le plus grand ennemi de Rome. Mais les deux, c'est exactement le même film qui reconstitue un petit peu les batailles entre ces deux forces, cette puissance du Sud et cette puissance du Nord. On revient toujours à ce point de démarrage de ma réflexion. Bon, je passe. Mais effectivement, le monde militaire a adopté la stratégie. Pourquoi? Parce qu'on est dans une bataille et qu'il faut qu'on use de ruses qu'on appellera tactique et à un moment donné stratégie, pour pouvoir essayer de mettre à mal l'ennemi et marquer des points. Bien. Dans le monde militaire, il y a des trêves. C'est bien, on peut arriver à les signer. Dans le monde économique, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. C'est-à-dire que l'entreprise qui n'arrive pas à conquérir une part de marché, qui de toutes les manières, à un moment donné, ne lui appartient pas, qu'elle va aller arracher à l'autre, c'est une entreprise qui ne va pas avancer. Et l'adage a changé à partir des années 70 dans le monde économique. C'est pas, vous savez, l'adage de celui qui n'avance pas recule, ça c'est fini. Celui qui ne court pas se meurt. Il meurt tout de suite. Parce qu'on ne lui laissera plus la place, du fait notamment de cette compétition-là. Alors il y a deux choses, saturation des marchés et hostilité, le comportement des entreprises les unes vis-à-vis des autres. Ensuite, le développement des technologies de l'information, ça a aidé considérablement, énormément. Ça a fluidifié les communications en interne dans l'entreprise, ça a fluidifié la communication en externe avec le client et ça a aussi permis, des fois, de fluidifier, d'institutionnaliser quasiment la communication entre entreprises elles-mêmes. Voilà les deux phénomènes pour moi qui, concomitamment, les plus importants en tout cas, il y en a bien entendu d'autres, qui participent à la transformation des marchés et donc obligatoirement aux mutations de l'organisation du travail. Dès que le marché change, l'entreprise change. Et comment elle va changer? D'abord en se réorganisant, soit en interne, soit en réorganisant le travail en son sein, la façon de mener l'activité en son sein. Les entreprises ont donc un choix très très restreint, c'est qu'elles doivent s'engager dans un mouvement de résistance-survie. Soit elles résistent pour survivre, soit elles n'existent plus, comme je l'ai dit. Et il y a beaucoup de théories, alors on n'en finirait même pas. Aujourd'hui, on parle pour les entreprises de stratégies qu'on appelle océan bleu, océan rouge, c'est-à-dire les entreprises qui vont être dans... Et vous entendez certainement parler, ou en tout cas vous avez déjà entendu parler de ce concept ou cette notion de disruption ou d'innovation, de rupture. Voilà, donc ça c'est l'océan bleu. Faire autrement, esquiver la concurrence, contourner la concurrence pour aller essayer d'inventer un marché nouveau, de s'inventer son propre marché. Donc c'est une solution à l'océan rouge qui est une situation rouge, ça rappelle le sang, et donc obligatoirement une situation où on va se confronter directement. Sauf que malheureusement, là aussi, on ne trouve pas la bonne solution, parce qu'à chaque fois que vous entendez parler d'une entreprise innovante, moi je suis, ma petite spécialité en stratégie, c'est le management de l'innovation, et ça fait des années que je dis, je déteste ce mot, parce qu'il est galvaudé et qu'il est utilisé un peu partout, et tout le temps on veut être innovant, on veut être novateur, etc. Alors que tout le monde ne peut pas l'être, c'est pas possible, et que toutes les entreprises n'ont pas besoin forcément d'être innovantes pour réussir. Vous voyez, on peut aller sur d'autres choses. On peut aller vers une certaine forme d'authenticité aussi. Vous ne pouvez pas demander tout le temps à un producteur, un viticulteur, un château quelconque, etc., d'innover. Peut-être que sa force à lui, c'est d'être effectivement authentique. Donc c'est une bonne chose pour certains secteurs, mais ça peut être quelque chose de pas recommandé pour d'autres. Alors que tout le monde veut s'aligner et tout le monde veut innover. Soit, mais il faut comprendre que l'innovation n'est pas toujours gage de part de marché supplémentaire ou de compétitivité. Pourquoi ? Moi j'innove, c'est très bien, j'ai dépassé l'autre. C'est ça l'océan bleu. J'ai dépassé l'autre, j'ai contourné, j'ai créé mon marché. Enfin, il va me voir, il va voir ce que je fais. Il y a ce qu'on appelle le benchmark aujourd'hui qui se fait entre entreprises, c'est-à-dire chaque entreprise observe les autres. Il va s'aligner. Quand il s'aligne, moi je vais devoir avancer plus loin, plus vite. Ben, il va avancer plus loin, plus vite, et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'une entreprise est innovante, elle va s'engager dans un effort considérable de recherche et développement, de marketing et de communication, pour en parler, et l'autre va faire pareil. Et petit à petit, on s'installe dans une forme qu'on appelle l'effet Reine Rouge. L'effet Reine Rouge, c'est Alice au pays des merveilles. Alice au pays des rêves, ça dépend de la version anglo-saxonne ou française. Dans un des songes, Alice court, comme d'habitude. Et à chaque fois, elle passe côté de la reine, la dame de cœur. Mais elle ne comprend pas. À chaque fois, elle prend une direction différente. À chaque fois, elle court ou elle essaye de courir plus vite pour aller plus loin. Et elle revient toujours au même endroit. À un moment donné, elle s'arrête. Elle regarde la dame de cœur et lui dit « Ma reine, je ne comprends pas. À chaque fois, j'essaye plus loin et changer de chemin. À chaque fois, je repasse à côté de vous tout près, alors que vous, vous n'avez pas bougé. » C'est ça, l'océan rouge aussi. Et l'océan bleu, l'innovation à force, va nous mettre dans une situation où obligatoirement on va devoir toujours mobiliser plus de ressources, on va toujours mobiliser plus d'efforts, plus de compétences pour pouvoir avancer un pas de plus par rapport aux autres, sauf que les autres vont faire de même et on va revenir à la même situation. Ce qui fait que les schémas économiques qu'on a connus à partir des années 70 ne fonctionnent plus. Et ce qui fait que, et nous l'aborderons sans doute la prochaine fois, que se sont construits de nouveaux schémas, notamment cette économie collaborative, circulaire, etc. Mais aujourd'hui, je voulais juste parler de coopération et de collaboration. Alors, sur l'organisation, qu'est-ce qu'on demande ? L'entreprise, quand elle veut survivre, elle a des choix très, très limités. Il va falloir qu'elle ait plus de réactivité par rapport au marché. Ça, c'est un fait. Qu'elle soit plus efficace aussi. Ça ne pardonne plus, il ne faut pas avoir une qualité bancale, il faut être le meilleur parmi les meilleurs. Mais en même temps, plus d'horizontalité. Pourquoi plus d'horizontalité ? C'est pas parce que les entreprises se sont réveillées un jour en disant, ou les chefs d'entreprise, j'ai rien contre les chefs d'entreprise, j'en suis un d'ailleurs, mais c'est pas qu'ils se sont réveillés un jour en disant, bon, on va renverser la pyramide de la hiérarchie. Non, c'est parce qu'en libérant certaines potentialités, ils ont vu un peu le modèle toyotiste japonais, en libérant les potentialités, peut-être que chacun va pouvoir s'exprimer davantage et on va pouvoir profiter, bénéficier, mettre à profit ces potentialités-là. Donc plus d'horizontalité. Aussi pour la circulation de l'information dans l'entreprise. Voilà, que ça ne soit pas une hiérarchie stricte où il y en a un qui commande d'en haut et qui ne peut pas être un soleil qui rayonne sur toutes les planètes ou tout le système solaire, mais il va être limité par rapport à une spécialité, par rapport à un domaine de prédilection, mais il ne peut pas décider de marketing, de vente, de production, d'achat, etc., ou de logistique. Ensuite, une meilleure aptitude à l'apprentissage. Ça, c'est le maître mot. C'est-à-dire que l'entreprise devienne une organisation apprenante tous les jours. Apprenante par ses salariés, apprenante par ses dirigeants, apprenante aussi par rapport aux autres entreprises, qu'il y ait un phénomène d'apprentissage quotidien quasiment. Et on appelle ça dans l'entreprise de plus en plus la veille informationnelle. Être en veille. Alors être en veille, c'est pas être un petit peu à moitié éteint, mais être en veille, c'est être toujours, obligatoirement, dans une situation où on est en train de faire ce fameux benchmark que je disais, d'analyser ce qui se passe autour de nous sur le plan commercial, stratégique, concurrentiel, technologique, etc. Cette dynamique est par contre très exigeante. Parce que le client que nous avons face à nous, il n'y a jamais eu plus exécrable. Pardon, mais nous. Comment en est-nous ? En règle générale, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir le produit, si possible, de la meilleure qualité qui soit. Le produit, si possible, qu'on ne paye même pas, presque. Voilà. Et nous sommes en plus infidèles du fait de l'offre que nous avons en face à cause de la compétitivité. Donc c'est très très dur pour les entreprises. Et on a peur d'un alignement par le bas des fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous reprenez les années 2000, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu comme mouvement énorme dans l'économie au niveau de la grande distribution ? Ben, le low cost, les discounts, par exemple. Et petit à petit, même eux, ils ont fait évoluer leur offre pour s'aligner sur les autres, qui eux-mêmes se sont alignés. Vous prenez Carrefour, il y avait les premiers prix, maintenant il y a Carrefour Discount. Vous prenez Lidl, qui était une marque, c'est le discount de base. Et je l'ai connu, étudiant ou autre. Et à un moment donné, on se disait, bon, la qualité, c'est pas ça. Ben, Lidl, aujourd'hui, c'est pas celui d'hier. Il peut rivaliser avec la grande distribution classique parce qu'il a revu à la hausse sa qualité. Donc tout le monde s'aligne tout le temps. Non, ça, c'est un grand problème pour l'organisation. Un grand problème, c'est qu'elles ont dû se revisiter totalement, presque. Une grande partie d'entre elles, surtout les grandes. D'abord, il y a eu une réduction tendancielle de ce que j'appelle la mobilisation des ressources en interne. D'ailleurs, vous prenez les grands groupes, ça fait maintenant 20, 30 ans qu'ils ont commencé à faire une cure d'amincissement. Et vous observez un petit peu, vous allez voir que, allez, depuis 3, 4 ans, rien qu'aller récemment, c'est pas il y a 20, 30 ans, Airbus a arrêté de travailler avec les prestataires de services, ou beaucoup en tout cas, énormément de prestataires, pas tous, hein, parce que sinon on serait mal dans la région, mais énormément de prestataires de services, notamment dans les systèmes d'information, dans la gestion de projets, etc. Pourquoi ? Parce que la situation était un petit peu difficile, et il a fait la promesse, en tout cas il s'est engagé auprès de ses salariés, qu'il n'y ait pas de licenciement. Donc quelle est la solution ? C'est on va rompre avec le prestataire de service. Ça, c'était une réflexion et une stratégie qui a été menée depuis quelque temps. C'est-à-dire dire, moi, au lieu que je porte tout en interne ou que je supporte tout en interne, je vais créer une situation où je vais avoir des partenaires autour de moi. Ils vont faire une partie de la production, une partie de l'activité qui est la mienne, la logistique ou autre. Ces partenaires, souvent, sont plus petits en taille. Je vais pouvoir quand même les dominer. Et effectivement, on a des situations où l'entreprise se retrouve face à Airbus ou une autre grande entreprise en situation de grande fragilité, dans un pouvoir de négociation très limité. Et on appelle ça la situation de monopsone. On entend souvent parler du monopole. Le monopole, vous le savez, c'est quand vous avez une seule entreprise qui domine l'approvisionnement ou en tout cas l'offre sur le marché. Le monopsone, c'est l'inverse. C'est quand il y a un seul client. Et quand vous avez un seul client, vous êtes face à un pouvoir de négociation très très faible. Vous n'avez pas le choix et il va vous dominer. Donc c'était une situation excellente. D'un côté, quand vous êtes petit, vous êtes réactif. Quand vous êtes petit, vous êtes la technicité. Vous êtes spécialisé en règle générale. Donc côté compétence ou qualité, on n'a pas peur. On ne prend pas de risque en venant vers des PME, des petites entreprises ou plus petits que soi. Sur le plan stratégique, on le domine quand même, parce que souvent on est dans cette situation où 80% de son chiffre d'affaires, il va faire avec nous, voire 100%. Bien. Mais en même temps, ce petit ou cette petite entreprise, elle est bien et elle nous apporte beaucoup parce qu'elle est agile. Elle est capable d'innover plus que nous, parce que nous avons à ce moment-là un poids, un système, une structure, une organisation très très lourde. On appelle ça la situation des économies d'échelle, c'est-à-dire c'est le prix à payer du gigantisme. Plus une entreprise elle est grande, plus sa structure elle est importante parce qu'elle a des coûts de fonctionnement qui deviennent très élevés, qui contrebalancent d'ailleurs les gains de productivité qu'elle peut faire du fait de sa taille et de sa capacité à produire et à vendre. Mais le petit, lui, il est agile. Il suffit qu'un, le chef d'entreprise, prenne la décision, ou que quelques-uns prennent la décision pour qu'on s'applique le lendemain, ou qu'on change de production, ou qu'on change de méthode de production, etc. C'est un peu le système soleil, on appelle ça dans notre jargon en organisation de l'entreprise, la structure soleil, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui va rayonner sur son entreprise. C'est un management très paternaliste, et donc lui, il suffit qu'il décide. Alors qu'une grande entreprise, il faut des réunions de préparation, de la réunion de préparation, de la réunion de préparation, de la réunion qui, des fois, n'a jamais lieu. Parce que les gens ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. Donc, elle gagne, la grande entreprise, à avoir des petites autour d'elle. Et en même temps, elle les contrôle. Moi, j'ai appelé ça. J'ai publié là-dessus. Et effectivement, certains extraits de cette présentation ont été présentés à l'Association internationale de management stratégique. C'est le paradoxe de la liberté contrôlée. Ou de l'autonomie contrôlée, que j'appelle. Effectivement, on est dans un paradoxe où, de toutes les façons, on nous parle de liberté tout le temps. Dans le monde de l'entreprise, la liberté, elle est magnifiée, le bien-être est magnifié, et heureusement, il n'y a aucun problème, sauf qu'en réalité, on est toujours dominé quelque part. Alors, je ne le rejette pas. En tant que chercheur, je n'ai pas à le juger, je le constate, simplement. Les entreprises, les grandes, vont constituer des petites, elles les contrôlent d'un côté, par son pouvoir, mais en même temps, elles sont libres. Mais le sont-elles vraiment ? Tant que ça se passe bien, il n'y a aucun problème. C'est le jour où il y a un carnet de commandes un peu moins garni, qu'il y a une situation économique générale qui soit un petit peu moins florissante, qu'elles vont le ressentir. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur les relations entre entreprises. L'entreprise qui m'intéresse le plus, ça s'appelle l'alliance stratégique. L'alliance stratégique, c'est toute coopération qui va avoir entre deux entreprises ou deux groupes. L'alliance stratégique peut se faire entre des organisations à but non lucratif aussi. Mais quelle est la différence entre une alliance et un partenariat ? Le partenariat, vous le faites, il peut durer dans le temps et il peut être presque global. On peut être partenaire ou alors sur un domaine bien déterminé. Mais il peut durer dans le temps. Il peut ne pas être acté aussi. Partenariat de fait. Alors que l'alliance stratégique, on conseille souvent qu'il y ait un contrat. C'est une relation entre deux entreprises ou plusieurs, ou deux organisations ou plusieurs, qui va être contractualisée, qui va être arrêtée dans le temps et qui va avoir une portée, un objet très spécifique. Donc je travaille, moi, sur ce matériau-là. Et dans la région toulousaine, je travaille sur les alliances stratégiques dans le monde de la biopharmaceutique, parce qu'on est très très bon là-dedans. On parle souvent de l'aérospatiale. On oublie qu'on a un pôle CBS Cancer Biosanté qui est très très intéressant, comme aussi un pôle Agrimip. Je dis souvent, c'est pas le domaine sur lequel je travaille, l'agroalimentaire, mais c'est quand même le premier employeur de la région, et il faut pas l'oublier, même si c'est pas celui qui fait le plus parler de lui. Mais enfin, c'est comme ça. Ça finit par créer des fédérations de réseaux autonomes, c'est-à-dire, à force que des grandes avec des petits autour, etc., qui se lient entre eux, on a des structures en étoile dans l'environnement. Ces structures en étoile rencontrent par contre, donc c'est des groupements composites, ils sont très très différents, hétérogènes, hétéroclites. Il y a un croisement d'intérêts qui à un moment donné a fait que ça existe, notamment le contexte économique dans lequel nous sommes, mais ça peut être aussi un besoin en termes de compétences particulières ou de ressources que l'un a et que l'autre n'a pas, et qu'il y a un intérêt stratégique à ce qu'on se regroupe aujourd'hui, à tous les niveaux, c'est que chacun, comme chaque entité économique, ne peut avoir ou rare sans celles qui peuvent avoir le pouvoir de résister d'elles-mêmes ou avoir les ressources et les compétences, la capacité donc qui leur permet de résister par elles-mêmes. Elles ont donc un intérêt stratégique à se regrouper. Et enfin, elles doivent être orientées vers un ensemble d'objectifs. Sauf que le grand problème de ces regroupements-là, c'est qu'on reste quand même indépendant. C'est ça l'avantage des alliances ou des partenariats par rapport aux fusions. Chacun reste indépendant et donc chacun a des objectifs différents. Et comment on va faire lorsqu'il va y avoir divergence d'intérêts? Et en plus, ces intérêts-là ne sont pas tout le temps exprimés. C'est-à-dire, je peux m'allier à une autre personne ou à une autre organisation parce que j'estime qu'elle a des ressources complémentaires ou des savoirs qui peuvent m'intéresser ou une dextérité quelconque ou une qualité, sauf que je ne vais pas lui dire que mon objectif, ça serait de la lui piquer. Et elle peut se rattacher à moi en tant que grande entreprise parce qu'elle va trouver le soutien financier, parce que ça va lui permettre d'avancer sur certains projets, etc. Et elle ne va peut-être pas me dire, en fait, avec les financements que vous allez nous assurer, il y a une partie qui ira sur des recherches que vous ne connaissez pas. Vous voyez ? Et je le côtoie et je le vois tous les jours. Il y a très peu de demandes de financement je le dis parce que je le constate, dans le monde scientifique, allez, de la recherche biopharmaceutique, par exemple, où la demande de financement concerne simplement le projet, mais effectivement, où la demande de financement, elle est vraiment concentrée sur le projet qu'on expose. Parce qu'on a toujours peur de manquer dans le monde de l'entreprise aussi. Et parce qu'on se dit, bon, je vais demander un peu plus quand même. Après tout, j'ai 2 ou 3 projets que je ne vais pas dire, mais je vais travailler dessus et puis j'en parlerai pas. Voilà. On est dans cette situation de fragilité aussi, hein, il faut le dire, hein, même les grandes.
En tout cas, le cadre que j'appelle spatial, moi le périmètre, et hiérarchique de la division du travail, ils ont glissé, vous le voyez, on a dû réorganiser totalement les affaires et les entreprises, d'un système d'hiérarchie verticale que je dis à frontières structurelles peu extensibles, on est passé d'un système classique où c'est homogène, une seule entité, très structurée, voilà, à un réseau horizontal, supposé être horizontal, où on communique et on traite d'égal à égal, ça n'est pas vrai puisque je l'ai dit, et en même temps connecté et à géométrie circonstancielle. On voit ces regroupements. Ben, se faire et se défaire, se compléter, ils sont mouvants, obligatoirement par nature, en fonction des buts et des intérêts. Et alors, je résume un petit peu tout ça par ce schéma. Vous avez une hyper-compétition, quête de plus d'efficacité, de réactivité, de flexibilité. Vous avez un apport considérable de tout ce qui est technologie de l'information. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui le web 2.0, par exemple, on est passé au 3. Les réseaux sociaux, l'Internet forcément, qui ont conduit à un éclatement de l'ordre hiérarchique informel ou formel pour former une libération de l'accès, du traitement et de la diffusion de l'information. C'est ça le cœur de la chose. C'est que si j'éclate l'ordre hiérarchique, l'information va passer de manière plus fluide. Et en plus, elle n'est même plus qu'en interne, on va la partager avec l'externe. Le tout est de se poser la question, est-ce que ce partage, il est honnête ou pas? Est-ce qu'il y a de l'opportunisme ou non dedans? Est-ce qu'il y a une asymétrie ou non qui fera qu'à un moment donné, il y en a qui vont prendre plus d'infos des autres? Quelle information je donne et quelle information je garde parce qu'elle peut être stratégique et qu'elle peut m'être retournée contre moi dans un temps proche ou un peu plus lointain, etc. etc. Ça, c'est des questions sur lesquelles je travaille. Donc, en intra-entreprise, on a une évolution de la relation encadrement salarié. Et celle-ci, j'aimerais bien pouvoir en parler beaucoup plus la prochaine fois. C'est la sociocratie, l'holacratie, etc. Je travaille énormément dessus. Et puis, sur le plan inter-entreprise ou externe, évolution de la structure et de la gestion des relations externes, c'est-à-dire on est passé vers ces alliances et vers cette forme de collaboration, coopération plus qu'autre chose. Tout ceci nous fait quand même rentrer dans une situation très paradoxale là aussi. Il y a un potentiel très stimulant pour le reste de l'économie. Il y a une activité, il y a une synergie, une émulation qui se fait entre entreprises en faisant pareil ou entre organisations. Il y a une création et développement de beaucoup de PME, de start-up. Nous sommes le pays des start-up. Pourquoi? Parce que les start-up sont encouragées aussi par les grands groupes. Prenez les grands groupes, ils ont presque tous des concours. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants. Alors c'est pas à l'ISG, mais c'est à l'ISEG, Marketing and Communication School. On suit des projets de fin d'études. Et on a chaque promo, un ou deux, qui sont sélectionnés par des grands groupes et qui sont prêts à financer. Toujours pour le même intérêt. Je peux financer la start-up, je préfère qu'elle soit indépendante. À la rigueur, je suis dans une structure de gouvernance, c'est-à-dire financière, où je suis dans le capital, mais en fait, ce n'est pas en interne. Je ne risque pas d'avoir des problèmes sociaux ou des mouvements, etc., en interne. Ça se réfléchit. Pourquoi? Parce que c'est des entités agiles, innovantes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Sauf qu'il y a des menaces compromettantes très très importantes, de nombreux paradoxes et des contraintes qui vont complexifier la situation. Parce que vous le voyez, si je suis dans une hyper-compétition avec les technologies de l'information, j'ai des unités support, ces petites entités qui sont dans la fédération de réseau, ces PME, qui sont marquées entre elles par l'hétérogénéité, l'atomisation, la décentralisation et l'autonomie. C'est-à-dire, en interne, elles ont besoin de ça pour fonctionner. Si vous rentrez dans une start-up, d'ailleurs, souvent ça ne fonctionne pas, hein, parce qu'il y en a, on en parle tous les jours, mais il y en a 1 sur 1000 qui fonctionne. Hein. Je fais du consulting, moi, auprès de quelques-unes, et des fois, parce qu'elles sont construites simplement, souvent, sur la capacité technique. Mais le reste de la gestion de l'entreprise, ça ne le maîtrise pas beaucoup, ou très très peu, en conscience aussi qu'il faut aller chercher des compétences complémentaires. Voilà. Sauf que elles sont décentralisées, elles sont autonomes. De l'autre côté, la grande entreprise qui va les chapeauter, les gouverner de manière indirecte, elle a besoin d'être dans l'homogénéité totale. C'est-à-dire, quand il y a une décision, ben, elle s'applique à tous. Qu'il y ait un rapprochement, une centralisation de la décision et un contrôle. Et on arrive à ces situations très conflictuelles qui vont produire ce paradoxe de l'autonomie contrôlée et des situations d'échec de la collaboration.
J'ai décidé d'en parler, ou j'ai fait le choix de parler de ça aujourd'hui en inversant un petit peu l'ordre des deux interventions, parce que cette entrée en matière va me permettre, peut-être la prochaine fois, de parler d'un sujet qui, je vous le dis, je m'y intéressais, mais c'est grâce à cette réflexion sur ce sur quoi je pouvais intervenir à la Maison de la Philosophie qui m'a amené à le travailler davantage, à savoir ces formes d'organisation nouvelles qui sont en train de se mettre en place et qui ne sont pas si éloignées des préoccupations qu'on entend tous les jours dans la rue ou dans les plateaux de télé, etc. Il y a un pan, donc je préfère le laisser pour la prochaine fois. Parler aussi, vraiment à ce moment-là, revenir sur l'histoire de la coopération, le besoin de l'humain, de l'être vivant en général, à coopérer. Revenir sur la coopération antique, ça a commencé aussi en Grèce, mais plus loin encore dans le temps. Et peut-être des concepts qui sont nouveaux, que je nommerai pas aujourd'hui, parce que les noms sont un petit peu particuliers. Ou en tout cas, voilà, on en parlera la prochaine fois, si vous me le permettez. Voilà pour ma partie de présentation, messieurs, dames. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose.